instant T avec Sunwa Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En marge d'une consultation médicale ou d'une hospitalisation pour poser un diagnostic ou dans le cadre d'un suivi, les soignants prescrivent fréquemment des examens complémentaires. Et au nombre des examens de biologie médicale les plus fréquents figurent l'analyse d'urine. L'étude du prélèvement de ce liquide filtré par nos reins permet d'identifier certaines substances qui en temps normal ne devraient pas y être présentes, certaines cellules, certains germes. Et l'examen le plus fréquent vise à diagnostiquer les cas d'infection urinaire. Mais l'analyse des urines ouvre également la voie à d'autres informations dans un très large registre, qu'il s'agisse par exemple de tests de grossesse, d'une opération de dépistage de drogue ou dans le même ordre d'idée d'un contrôle antidopage. Dépister mais aussi orienter des traitements, des soins. Ces examens constituent des recours particulièrement pertinents, y compris en matière d'évaluation, d'anticipation de prise en charge. On comprend alors que nos urines, cette substance qui peut sembler a priori triviale, est en réalité une ressource incomparable pour notre santé. Vigie en cas d'affection, y compris pour les atteintes les plus sévères qui concernent l'appareil urinaire, comme l'insuffisance rénale. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé, à l'occasion de la Journée mondiale du rein, on va aborder également la question de la qualité de vie des personnes concernées par ce type de défaillance, en insistant une nouvelle fois sur la prévention. Journée mondiale du rein donc, et avec nous en studio, docteur Isabelle Tostivin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, également chargée de la communication scientifique de la Fondation du Rhin. Et tout à l'heure, nous retrouverons en ligne du Gabon le docteur Jean Massandé, chirurgien urologue, andrologue, chef de service d'urologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville.
Priorité santé sur RFI.
Mais avant de parler de notre sujet du jour, une date, cette date symbolique, c'est celle du 11 mars, premier anniversaire de la déclaration de la pandémie de Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé. Date symbolique qui a été choisie pour lancer un nouvel appel, une remobilisation. Professeur Alfred Spira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur honoraire de santé publique et d'épidémiologie à la faculté de médecine de Paris-Saclay, membre de l'Académie de médecine. Je précise qu'on a enregistré cet entretien. Appel de Paris, signé par un collectif de scientifiques, de médecins, responsables d'ONG et de syndicats. Professeur Spira, vous faites partie des signataires. Hein. Toutes ces tribunes qu'on a pu lire dans la presse ces dernières semaines qui plaident en faveur de la libération de la production des vaccins, bien communs. Quand on parle de vaccination, aujourd'hui vaccination contre la Covid-19, qu'est-ce que ça veut dire, bien commun ?
Comme vous l'avez dit, donc, il y a un an qu'a été déclaré l'état de pandémie, c'est-à-dire une question de santé publique qui concerne tout le monde, partout, en même temps, aujourd'hui, et on ne sait pas encore pour combien de temps. La lutte contre cette épidémie, c'est donc une question de protection collective, globale, c'est une question d'équité, c'est une question de justice sociale. On a affaire à un virus dont la composition génétique, ce que nous on appelle le génome, a été d'emblée rendu public par les chercheurs qui l'ont trouvé très très rapidement, il y a plus d'un an, en janvier 2020. Donc la séquence du virus est publique. Il n'y a strictement aucune raison théorique pour que les vaccins qui sont issus et qui sont basés sur cette séquence génétique ne soient pas aussi quelque chose de public. Cette séquence, elle a servi à fabriquer tous les vaccins. Avec des financements publics massifs, la recherche a été financée par les États, c'est de l'argent public. Il n'y a donc aucune raison pour que Pfizer fasse 15 milliards d'euros de bénéfices sur ses vaccins. Il faut que ces vaccins soient accessibles partout, pour tous, comme un bien appartenant à l'humanité.
D'aucuns répondent que c'est précisément l'investissement privé, à l'inverse, dans le secteur concurrentiel du médicament, des biotechnologies, qui a favorisé le succès de la recherche. Trouver un vaccin efficace en si peu de temps, qu'est-ce que vous en pensez ?
L'investissement a été d'abord un investissement public. Et comme vous le savez sûrement, les contrats qui ont été signés sont des contrats qui, par exemple, reversent aux laboratoires détenteurs des brevets les bénéfices, mais par contre, en cas d'effet secondaire, en cas de problème, ce sera à l'État d'assurer ça. Mmh. On est dans une démarche complètement inégalitaire. D'ailleurs, vous savez, le président de la République, Emmanuel Macron, en juin 2020, avait dit qu'il défendait cette vision d'un bien public mondial. Mmh. Il faudra que les efforts de recherche soient récompensés, disait-il, mais il faudra lutter contre toute forme de rétention, contre le fait que tel ou tel pays, en particulier les moins développés, n'ait pas accès au vaccin. Donc on est tous d'accord, il faut qu'il y ait un accès le plus large possible, bien entendu en rétribuant chacun de ce qu'il a mis, et en particulier en rétribuant les États et la recherche publique pour la matière grise qui a été mise à disposition des laboratoires.
Les chercheurs au service de tous, discours humaniste pour la santé. Cette demande de libération des licences des vaccins, elle a été formellement présentée à l'Organisation mondiale du commerce. Quel résultat, quelle réaction aujourd'hui ?
Alors, depuis 6 mois, il y a des négociations à l'Organisation mondiale du commerce pour la suspension temporaire, je dis bien temporaire, d'accord sur la propriété intellectuelle. Ces discussions sont en cours. On attend d'ailleurs peut-être une issue favorable à ces discussions aujourd'hui et demain, puisque l'OMC se réunit aujourd'hui et demain. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a exhorté les pays à soutenir l'initiative qui vient de l'Inde et d'Afrique du Sud pour une levée temporaire des barrières qui protègent les brevets des vaccins anti-Covid. Tout ça pour contourner ce qu'il a appelé le nationalisme vaccinal. Et ceci a déjà existé, ce n'est pas une première. Ça a existé pour les traitements contre le VIH, ça a existé pour les traitements contre l'hépatite C. Mmh. À l'heure actuelle, les discussions sont bloquées, en particulier par l'Europe. La position de l'Europe qui est largement soutenue par la France et qui bloque cette libération des brevets, cette libération temporaire des brevets qui est demandée.
Alors, il y a une inégalité dans la distribution des vaccins, mais on peut dire aussi qu'à l'heure actuelle, il y a l'insuffisance en matière de capacité de production. Est-ce que cette notion de bien commun peut aussi changer la donne en la matière ?
Oui, ça peut changer la donne parce que si les brevets sont levés, ça permettra de mobiliser toutes les ressources de production qui sont disponibles. Et c'est pas le cas actuellement. Pour le moment, les vaccins sont produits dans quelques pays au monde, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans certains pays européens, en Chine et en Russie. Mais il existe d'autres ressources, par exemple dans des pays comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil.
Les grands génériqueurs.
Absolument, ils ont déjà fait la preuve qu'ils avaient aussi des possibilités de production, et ces possibilités de production, elles ne sont pas mobilisées aujourd'hui. Donc on peut tout mobiliser, et l'émergence d'un bien commun mondial, un bien commun de l'humanité, permettra de mobiliser toutes les ressources. Ça va pas être magique du jour au lendemain, mais ça devrait grandement améliorer les capacités de production.
Professeur Alfred Spira, quand on vous dit que vous êtes des utopistes, des doux rêveurs, vous répondez quoi ?
Je réponds, soyez réalistes, demandez l'impossible.
Demandons l'impossible, tout simplement, d'être soignés et que nous soyons tous égaux pour être soignés. Merci beaucoup, professeur Alfred Spira. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Priorité santé, on revient à notre sujet principal du jour, la santé de nos reins. Je disais il y a quelques instants, les urines, substance a priori triviale aux yeux du grand public. Mais docteur Isabelle Tostivin, pas du tout triviale pour la néphrologue que vous êtes. Pour vous, ce liquide biologique, c'est à l'inverse une source formidable de connaissances pour soigner, on va dire, presque une mine d'or.
Oui, montrez-moi vos urines, je vous dirai qui vous êtes.
Philosophe.
Oui, puisqu'en fait, les urines, elles concentrent les toxines, bien évidemment. Mais elles sont un reflet de l'état de santé.
Alors, il y a deux façons de les aborder, on va dire quasiment à l'œil nu. Et puis, à vision vraiment élargie, sous le microscope. Qu'est-ce qu'on voit déjà quand on est spécialiste des reins et qu'on nous apporte un échantillon ?
Qu'est-ce qu'on regarde au microscope ? Alors, la néphrologue que je suis s'occupe beaucoup de personnes atteintes de maladies rénales qui font fabriquer des calculs. Donc nous recherchons les cristaux. Mmh. Et à l'état naturel, physiologique de santé, on ne voit rien au microscope. Mmh. Normalement, il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de cristal.
Mais à l'œil nu, on apporte un flacon. Au niveau de la teinte, au niveau de l'allure des urines, est-ce que vous pouvez déjà comprendre des choses ?
Bien sûr. Si au lieu d'être jaune, la couleur classique des urines, c'est-à-dire comme du vin blanc, si vous voulez, un Riesling par exemple, vos urines sont cidre ou bière, avec une épaisse couche de mousse, on sait tout de suite qu'il y aura des protéines. Par exemple, quand il y a de la mousse, ça veut dire qu'il y a des protéines. On sait quand il y a, par exemple, si c'est un rosé, on sait qu'il y aura des traces de sang. Mmh. Donc ça, déjà informatif à l'œil nu, effectivement.
Pourquoi est-ce que les examens des urines sont plus souvent prescrits le matin ?
Ah, parce que les urines du matin, c'est le chagrin, entre guillemets. Parce qu'en fait, le rein travaille excessivement beaucoup la nuit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va concentrer les toxines. Tout le monde sait que le rein filtre, ça, bien sûr. Mais personne ne sait qu'il y a presque 200 litres qui partent à gauche, enfin 100 litres à gauche, 100 litres à droite par jour. Évidemment, le rein est un filtre, mais il est également un alambic qui va concentrer les toxines la nuit. Donc en fait, les urines du matin sont toujours les plus concentrées et c'est là qu'on recherche les cristaux pour les personnes qui font les calculs.
Alors très simplement, justement, ces analyses d'urine, c'est un médecin, un soignant, une infirmière qui nous les prescrit. Le plus souvent, dans quelles circonstances, on va dire, l'indication de base, c'est quoi ? Ce sont les infections urinaires ?
Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rein, donc on va dire que c'est la bandelette urinaire, elle est très intéressante pour dépister quoi ? L'anomalie, donc la présence de cellules, qu'il s'agisse de leucocytes, les globules blancs, qui pourraient refléter une infection urinaire, les hématies, les globules rouges, qui pourraient témoigner par exemple d'un polype si on fume ou d'un cancer de la vessie, parce que le tabac est très pourvoyeur de cancer urothélial. Également, on va rechercher la présence de protéines. La première cause de mise en dialyse au monde, c'est le diabète compliqué de maladie rénale. Et donc, pour la journée mondiale du rein, eh bien, c'est important. On va dépister par la bandelette la présence de ces éléments. En médecine du travail également. Mais effectivement, pour la prescription la plus fréquente, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera effectivement l'examen cytobactériologique des urines des femmes qui sont suspectes d'infection urinaire. Dernier élément qui est plus rarement prescrit par les néphrologues, mais par les urologues qui sont nos amis chirurgiens du rein, enfin de l'appareil urinaire, c'est la recherche de cellules anormales. On fait une cytologie urinaire. Dans ces cas-là, 3 jours de suite, on va concentrer les urines à la recherche de cellules qui sont cancéreuses et qui se détachent de l'arbre urinaire, volontiers chez les fumeurs, encore une fois.
Alors, il y a des dépistages, des tests réclamés pour des motivations très différentes. Ça se réalise en ayant recours à une sorte de stylo, comme pour les tests de grossesse. Question toute bête, hein, ça marche comment ? À quoi ce test, alors, réagit-il ?
À la présence, vous voulez dire la bandelette urinaire ? Eh bien, alors la bandelette urinaire réagit à la présence d'albumine.
D'albumine.
Hein, pour rechercher les causes d'atteinte du filtre qu'on appelle le glomérule, le filtre rénal, qui devrait être étanche. Normalement, l'albumine, c'est une grosse protéine. Elle est très précieuse, bien sûr. Donc, elle ne se retrouve pas dans les urines. On cherche donc les globules blancs, les globules rouges. On peut aussi mesurer le pH, pH, c'est très intéressant, notamment pour les femmes qui font des infections très récidivantes. Il y a une mode du véganisme. Moi, je suis ni pour ni contre. Simplement, j'alerte les femmes jeunes qui ont des infections urinaires récidivantes sur la nécessité d'acidifier leurs urines.
Alors, on va parler des tests urinaires pertinents pour la santé des reins. Hein, c'est vraiment notre sujet du jour. Vous pouvez nous expliquer, justement, pour les calculs urinaires, on recherche quoi précisément, docteur Tostivin ?
Alors, pour les calculs urinaires, quand ils sont symptomatiques, par exemple quand on a une douleur abdominale et qu'on veut savoir si ça peut être lié à la migration d'un calcul dans l'urètre, donc dans ce long tuyau entre le rein et la vessie, on va rechercher la présence de sang. Et s'il y a du sang, c'est très évocateur de la migration d'un calcul. Après, une fois qu'on a expulsé le calcul, je rappelle que le calcul, c'est une véritable pépite d'informations également, qu'il faut savoir analyser et dont on décrypte le message, parce que la recette à l'origine de la fabrication du calcul, elle est contenue dans le calcul. Vraiment, c'est la pièce à conviction. Si nous n'avons pas le calcul, nous avons toujours les urines à disposition. Mmh. Et dans ces cas-là, nous allons rechercher un déséquilibre entre les gentils, la force anti-calcul, et les méchants. Par exemple, les promoteurs, c'est-à-dire ceux qui font construire. Les gentils, par exemple, le citrate, c'est un élément protecteur, anti-calcul. Le calcium, l'oxalate, l'acide urique sont des promoteurs. Donc s'ils sont en très grande concentration, ils vont cristalliser, on peut regarder les cristaux dans les urines, et les cristaux sont des bébés calculs, ou en tout cas des précurseurs qui vont s'agréger. C'est la règle de un peu, beaucoup, passionnément, trop de calcium par exemple. On a des calculs à base de calcium.
Alors vous êtes spécialiste de la néphroprotection, protéger nos reins, préserver nos reins. Ça repose sur vous, médecin néphrologue, mais pas seulement. Il y a tout un réseau des praticiens, des soignants. Tout à l'heure, vous avez cité une autre spécialité, l'urologie. Mais il y a aussi toute une équipe qui travaille justement pour cette protection des reins. Alors, qui sont justement ces acteurs de la santé de nos reins?
Alors, on est très peu nombreux, les néphrologues, et on travaille peu en ville. On est coincé dans nos centres de recherche, d'enseignement et de dialyse et de transplantation. Et donc, on travaille main dans la main avec tous les acteurs de santé que sont le médecin généraliste, les infirmières d'éducation thérapeutique, les diététiciens nutritionnistes, évidemment, c'est très important. Le rein, il va subir les méfaits de notre alimentation moderne ultra déséquilibrée, trop riche en sel, trop riche en protéines, en gras, en sucré, en salé. On le sait. Et puis après, il y a tout. Les diabétologues sont tout à fait sensibilisés. Il y a dorénavant également des psychologues, parce que depuis l'année dernière, les personnes atteintes de maladies rénales 4 et 5, parce qu'en fait, il y a 5 stades, eh bien, nous avons milité pour que ce soit reconnu, la prévention, pour conserver son autonomie rénale et ne pas avoir besoin d'aller en dialyse. Donc ça, c'est vraiment formidable. Il faut le saluer parce que, par exemple, dans mon service, on a pu embaucher une infirmière de coordination de soins, et ça, c'est très précieux. Et puis, une psychologue pour parce que vivre avec une maladie rénale chronique, ceux qui ont perdu leur autonomie rénale ont perdu une forme de liberté, et ils savent à quel point le rein est si précieux pour conserver sa liberté. Parce que de voyager, de manger, de bouger, de tout.
Ça veut dire tout simplement être obligé d'être raccroché à cette machine. On va dire, dans la plupart des cas, quand la maladie est très avancée, ça peut être plusieurs fois par semaine.
C'est malheureusement 3 fois 4 heures par semaine branché à la machine, ce qui n'inclut pas le temps de transport, le temps de compression de la fistule. Enfin, voilà, c'est vraiment une vie différente.
Une vie très différente. Alors, une première question dans quelques instants en direct. D'abord, un message Facebook d'un auditeur du Congo-Brazzaville, Miguel. C'est une question assez fréquente, hein, surtout de la part des hommes, qui demandent si uriner plusieurs fois pendant la nuit, c'est forcément le signe d'une maladie. Pas mal d'auditeurs s'inquiètent justement quand ils sont réveillés, on va dire, y compris dès l'âge de 30 ans, par cette envie d'uriner à plusieurs reprises pendant la nuit. Ça peut être signe de quoi? Et est-ce qu'il faut s'inquiéter?
En tout cas, il faut consulter, parce que si on s'inquiète, oui, effectivement, ça peut être un signe d'alerte. Alors, si on a plus de 60 ans, c'est volontiers, très souvent, la prostate qui est un petit peu enflée et qui comprime la vessie. Donc, la vessie perd sa capacité de se dilater et lutte contre la prostate. Donc, dès lors qu'on se lève 2-3 fois par nuit, que c'est difficile, que le jet est diminué, bien sûr, c'est plutôt un urologue qu'il faudra aller voir avec une échographie, des PSA, enfin, un dosage spécifique biochimique. A contrario, si c'est à partir de 30 ans et qu'on se lève 3-4 fois la nuit, qu'on est réveillé par la soif plutôt que par l'envie d'uriner, il faut chercher un diabète, le diabète sucré, mais il y a d'autres types de diabète qui peuvent donner ces mêmes symptômes. Enfin, nous savons, nous néphrologues, que le rein, il fonctionne beaucoup mieux allongé plutôt que debout. Et donc, dans ces cas-là, ça peut être un signe très, très, très subtil de début d'insuffisance rénale. Enfin, en tout cas, il faut faire des examens. Oui, c'est mieux. Après, quand on se lève vers 3 heures du matin, qu'on n'arrive pas à s'endormir, on va volontiers uriner. Mm-mm. Ça, c'est autre chose. Vous voyez,
c'est plus un problème de sommeil qu'un problème de vessie,
exactement.
Éventuellement.
Puis on a peur d'être re-réveillé, donc on va uriner. Voilà, ça existe aussi.
Alors, on va tout de suite vous donner la parole.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
Et c'est dans la capitale malienne qu'on vous retrouve. Mariam, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors
bonjour,
vous,
docteur.
Bonjour Mariam.
Vous êtes concernée par les calculs rénaux. Expliquez-nous.
Depuis l'âge de 14 ans, c'est à 14 ans qu'on m'a détecté les calculs rénaux. Depuis à bas âge, déjà j'avais des signes, j'avais souvent des mal de ventre, des maux de ventre, disons, on ne savait pas ce qui me causait ces maux de ventre. C'est à 14 ans qu'on m'a détecté des calculs. J'ai eu ma première intervention à cet âge-là. Donc après, j'ai cru que c'était fini. Je suis passée à autre chose. Et alors, 2-3 ans après, ils sont revenus encore. Donc j'ai été faire des analyses encore. Mon docteur m'a dit que ce sont des calculs encore. Il m'a dit que j'ai une malformation au niveau des urètres, c'est ce qui me causait souvent des calculs. Mm-hmm. Et que les malformations ne pouvaient peut-être pas être réparées. Et que je devais vivre avec ça quotidiennement.
Aujourd'hui, est-ce que vous prenez un traitement, Mariam?
Non, aujourd'hui, je ne prends pas de traitement.
Et vous ressentez à nouveau...
J'ai une intervention en cours.
Mm-hmm. Vous ressentez à nouveau des douleurs?
Oui, souvent.
Mmh, souvent. Alors, dites-nous, oui. Quelles questions souhaitez-vous poser à notre invitée, au docteur Isabelle Tostivin?
Ma question est, qu'est-ce que je pourrais faire dans mes habitudes quotidiennes pour éviter les calculs dorénavant? Parce que mon médecin m'a dit que lui ne pouvait rien contre ça et que je pouvais les faire tout le temps.
Alors, en fait, il y a des calculs qui sont... typique chez vous d'une malformation. Donc en fait, il y a un rétrécissement de l'urètre, le long tuyau entre la vessie et le rein. Et c'est ce pourquoi l'urine s'écoulant bien plus lentement, on a une accumulation probablement d'oxalate et d'acide urique chez vous, Mariam. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cela? Eh bien, évidemment, il faut diluer les urines. Ça veut dire que la quantité d'urine par 24 heures que vous devez avoir pour éviter les récidives, éviter de reconstruire à chaque fois sans opérer, puisque effectivement, la malformation a été opérée, mais souvent c'est le cas, hein, ça s'appelle un syndrome de jonction. Bref, c'est possible de ralentir complètement la fabrication des calculs en faisant trois choses. D'abord, il faut diluer les urines de la nuit, parce qu'en fait, les cristaux, ils se fabriquent la nuit quand le rein, il concentre totalement les urines. Donc, boire beaucoup la nuit, en réalité. Ah. C'est la nuit qu'il faudrait. Moi, j'ai un adage, c'est tisane du soir, espoir contre les cristaux du matin chagrin. Parce que, en fait, il faudrait que vos urines, elles soient tout le temps très claires, Mariam. Vraiment parfaites. Plus clair que la norme, entre guillemets. Premièrement, donc boire suffisamment le soir pour que dans la nuit, vous uriniez vers 2-3 heures du matin et reboire une fois levé pour que les urines du matin ne soient plus chagrin, hein, qu'il n'y ait plus de cristaux dedans.
Moins concentré.
Beaucoup moins concentré, premièrement. Deuxièmement, manger très équilibré, beaucoup de légumes, 2 fruits seulement maximum par jour. Et troisièmement, si vous avez du citron, il faut diluer l'équivalent d'un citron, parce qu'il y a du citrate, vous savez, c'est la force anti-calcul. Et ça, c'est très intéressant. Un citron dilué dans 1 litre d'eau, sans d'eau normale, entre guillemets, eh bien, vous buvez ça, Mariam, toute la journée. C'est très intéressant, il n'y aura plus de cristaux. Donc, on peut vivre avec une malformation sans récidiver les calculs. Mais il faut faire cela, manger très équilibré, juste couvrir ses besoins en protéines. Et donc, on peut tout à fait espérer. Il y a le docteur Touba, Mohamed Dahaba à Touba, qui a ouvert la première consultation dédiée aux personnes qui ont des calculs rénaux. Si vous voulez le consulter, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais il peut vous redonner ses conseils. Et on peut tout à fait, avec des moyens très simples, faire cela pour éviter que les calculs en place ne grossissent et ne récidivent.
Mariam, aujourd'hui, est-ce que vous buviez en grande quantité?
Oui, je bois en grande quantité.
C'est-à-dire, parce qu'en plus, quand on est au Mali, on sait très bien qu'il y a une déperdition à cause de la chaleur. Vous buvez combien par jour, à peu près?
En moyenne, 3 litres par jour.
Est-ce que vous savez, Mariam, ce qui sort à la sortie de votre vessie? Parce que quand on boit 3 litres, malheureusement, on sait très bien que ce qu'on boit ne sort pas forcément, parce que ça peut sortir par la bouche, par la peau, la transpiration. Donc en fait, c'est très important de mesurer ce qui sort, donc d'évaluer la quantité d'urine. Et vous, c'est 3 litres à la sortie, c'est pas seulement 3 litres à l'entrée. Il faut vraiment que ce soit...
Ça veut dire qu'on peut aller au minimum jusqu'à boire 5 litres
ça
par jour.
C'est possible. En sachant qu'il faut vider sa vessie toutes les 3 heures maximum, y compris la nuit.
Pas de rétention.
Voilà, compris la nuit.
Donc ça veut dire boire beaucoup d'eau.
Uriner régulièrement.
Et aller souvent aux toilettes.
Exactement, en grande quantité.
Voilà pour ces conseils, Mariam. Très bonne journée à Bamako. On prend la direction du Bénin. On retrouve Gildas tout de suite. Bonjour.
Oui, bonjour, Caroline.
Alors, vous aussi, Gildas, vous ressentez des douleurs au moment de la miction, quand vous urinez. Expliquez-nous.
Oui, ça m'arrive parfois. Quand je veux uriner, je sens une très forte douleur qui me fait extrêmement mal, au point où si je ne retiens pas, ça peut me suffire pour que je puisse pousser un grand cri au moment où j'urine.
Donc au point de crier. Vous avez fait des recherches, vous en avez parlé à un médecin ou pour l'instant, vous êtes là tout seul avec vos questions ?
Rien fait pour l'instant.
Vous n'avez rien fait pour l'instant ? Mm-hmm. Même si on va dire, quand on crie de douleur, hein, c'est quand même quelque chose d'absolument épouvantable. Vous avez des petites idées de ce qui pourrait vous arriver ? Vous buvez beaucoup ? Vous avez une activité physique ?
Oui, bon, activité physique, je suis très mobile, je me déplace beaucoup.
Ouais.
Mais en concernant, je bois aussi beaucoup. Pas d'avoue, j'aime prendre beaucoup de l'eau.
De l'eau. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu mieux, un petit peu plus, avec des mots plus douleur. Précis, cette douleur ? Ça vous fait mal où ? Ça vous fait mal dans le bas du ventre ? Ça vous fait mal, excusez-moi de poser cette question, c'est personnel, mais je la pose quand même. Est-ce que ça vous fait mal sur le sexe ? Qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est au niveau du sexe, ça me fait mal. Au bout de mon appareil urinaire, c'est là, ça me fait très mal.
Mm-hmm. Docteur Tostive, on a peu d'indices, hein, on va dire là. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à Gildas ?
Moi, je pense qu'il est important qu'il voit un urologue parce que ça la ressemble plus à une affection donc urologique avec une irritation à l'intérieur de l'urètre, hein, ce canal qui est dans le sexe, hein, dans le pénis de l'homme. Et donc du coup, ça peut être une infection, ça peut être une irritation par des cristaux. Donc là, l'analyse chimique à la fois cytologique et chimique, est-ce qu'il y a du calcium, est-ce qu'il y a de l'oxate, est-ce qu'il y a autre chose, c'est très, très utile. Parce que la douleur à ce point localement, il faut rechercher une infection, il faut un examen avec un œil exercé d'urologue. Hein.
Donc aller voir un spécialiste et qu'il vous fasse faire une analyse d'urine.
Oui, parce que les solutions existent pour ne pas plus avoir mal.
Il ne faut pas rester avec cette douleur. On vous souhaite du courage et puis une bonne journée aussi au Bénin. Docteur Tostive, on va poursuivre avec d'autres questions tout de suite après une pause musicale avec Young Bae, ce titre Bad Boy.
I'm a bad boy doing good things. Got a lemonade with chicken wings. With a bad bitch, it's quite thick. So I might just pop myself a chain tonight. Slim shawty with a tank top. I'ma let her munch it on my cake pop. Yeah, yeah, Young Bae making his try. So I might just take your woman for a night. Everybody in the whole building. I said, everybody in the whole building. Come on, follow along, feel the groove. And get yourself to move. Get your ass to the dance floor. I said, get your ass to the dance floor. Come on, follow along, feel the groove. Yeah, there's no one to prove. Make a girl, make a boy. Spin around like a toy. Grab my hands, put them close. Push them back, do the most. I said, make a girl, come on, make a boy. Come on, spin around, come on, like a toy. I said, grab my hands, come on, put them close. Come on, all y'all, push them back, come on, do the most. Let's go. And a mirror whip on the side. Damn, I'm looking fly. Baby, no money, young baby, I'm fine. 30 minute hits, yeah, why would I lie? All night we pacify. Crazy bad girls in my side. Think I need a trial. Confidence is peaky. I'm a really nice guy. As a fine lady, yo, girl, you wanna drive. Can't you feel these sparks tonight? Everybody in the whole building. I said, everybody in the whole building. Come on, follow along. Feel the groove. And get yourself to move. Get your ass to the dance floor. I said, get your ass to the dance floor. Come on, follow along. Feel the groove. Yeah, there's no one to prove. Break a girl, break a boy. Spin around like a toy. Grab my hands, put them close. Push them back, do the most. I said, break it, girl, come on. Break a boy, come on. Spin around, come on. Like a toy. I said, grab my hands, come on. Put them close, come on. All y'all, push them back, come on. Do the most. Let's go. Break a girl, come on. Break a boy, come on. Spin around, come on. Like a toy. I said, grab my hands, come on. Put them close, come on. Push them back, come on. Do the most.
Bring a girl, she my world. Got her dancing, come on, make a twirl. I've been doing things all y'all couldn't dream of. Yeah. I just made another song for the people. Hey.
Priorité santé sur RFI, santé des reins aujourd'hui, journée mondiale. Notre invité en studio, le docteur Isabelle Tostive, néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors ce dépistage, ce diagnostic des maladies rénales et donc vivre avec, hein, docteur Isabelle Tostive, on parlait tout à l'heure de la perte d'autonomie lorsqu'on a une affection rénale grave. Gérer cette maladie au quotidien, ça veut dire aussi passer par la case éducation thérapeutique. Ça se discute avec qui directement ?
Alors là, dorénavant, avec son médecin, l'éducation thérapeutique, c'est vraiment fantastique pour aider, accompagner les personnes à redevenir acteurs de leur santé, pour trouver des solutions qui allègent le fardeau de la maladie et du traitement.
Alors, d'autres questions tout de suite. On va repartir pour le Mali. On va retrouver une auditrice qui est en ligne de Cathy. Cette auditrice, c'est Thérèse. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur Isabelle.
Bonjour Thérèse.
Alors une histoire douloureuse Thérèse, on va pas se le cacher, avec de graves complications lors de votre accouchement, votre dernier accouchement. C'était au mois d'octobre dernier. On a préparé cet entretien. Vous nous avez appris que vous aviez perdu votre bébé, ce pourquoi bien sûr toute l'équipe vous présente ses condoléances. Alors racontez-nous les circonstances de cet accouchement et puis les suites pour la santé de vos reins. Allez-y.
Ok, merci. Comme vous l'avez dit, tout a commencé lors de mon accouchement. J'ai fait une rupture utérine. Donc là, on m'a fait entrer au bloc. Quelques heures après le bloc, c'est mon mari qui a remarqué que la poche de la sonde urinaire des autres femmes était presque remplie d'urine. Mais chez moi, c'est le contraire. Il n'y avait que quelques gouttes seulement. Il a ainsi signalé cela au médecin, qui lui ont répondu d'attendre un peu, peut-être que c'est un problème qui va se gérer au fil du temps. Ainsi, j'ai fait 3 jours avec le même contenu, toujours dans la poche de la sonde urinaire.
Aucune fabrication urine, d'urine, enfin, qui puisse sortir juste après l'accouchement.
Oui, juste après l'accouchement. Et il nous a fallu attendre 5 jours à l'hôpital. Quand ils ont vu que ça n'allait pas, c'est là qu'ils m'ont référé, ils m'ont dit d'aller voir un néphrologue à l'hôpital du Point G. Mais avec le conseil d'un ami médecin, on a préféré aller à un autre hôpital, appelé Mali Gavardo, hôpital catholique.
Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu justement, on va dire, vous permettre d'éliminer vos urines?
Rien, on me donnait rien, on faisait juste des perfusions, je ne sais pas pour quel but. Mais on ne me donnait rien en plus des perfusions.
Finalement, vous avez été dialysée, c'est ça, Thérèse?
Oui, j'ai fait 4 séances de dialyse. Après les 4 séances de dialyse, que les reins ont commencé à fonctionner, à reprendre leurs fonctions. Et ça, ça s'est passé à l'hôpital Mali Gavardo. Après un scanner et une échographie abdominopelvienne, on a su que c'est une insuffisance rénale aiguë. Oui, et c'est là. J'avais pas envie du tout de voir. On me disait toujours, bois, Thérèse. Mm-hmm. Mais moi, je n'avais pas du tout envie de voir. Je sais pas ce qui faisait cela, mais tout mon corps était enflé. Chaque jour, ça s'enflait de plus en plus. Mais c'est lors de mon hospitalisation à Mali Gavardo qu'on m'a donné un médicament du nom de Furocap.
Furosémide.
Voilà, c'est ça, exactement. Le médecin, le néphrologue m'a dit, Thérèse, on te dit de boire, tu ne veux pas boire, donc je vais te donner ce médicament. Chaque matin, tu le prends, tu n'es pas obligé de boire, mais quand tu sens le besoin, vraiment, ne te retiens pas. Il m'a donné ce conseil, j'ai dit, d'accord. Le soir, il est revenu et il a vu que j'avais des hoquets. Il n'était pas surpris, il m'a demandé quand est-ce que les hoquets ont commencé. J'ai dit, bon, il y a 4 heures à peu près. Il m'a dit, mais tu ne bois pas toujours. J'ai dit, cette fois-ci, je suis obligée de boire pour faire partir le hoquet. Donc, il m'a dit, alors continue comme ça. Et surtout, il a dit à mon mari de contrôler mon alimentation, de me faire beaucoup manger la pastèque si on en trouve. Un jour, j'ai beaucoup mangé la pastèque, les concombres. Soudainement, on a vu vers le soir que vraiment la poche de la sonde urinaire commençait vraiment à
se remplir.
À se remplir petit à petit. Pour moi, c'était toujours un rêve parce que c'était la 3e semaine que je n'avais pas d'urine.
Thérèse, aujourd'hui, parce que je voudrais que vous puissiez poser votre question au docteur Tostivin. Aujourd'hui, est-ce que vous urinez normalement? Et aujourd'hui, quelle est la question que vous avez en tête?
Aujourd'hui, j'urine normalement. Ma question, c'est de savoir quelle est vraiment, comment est-ce que de la maternité, on peut se retrouver à la néphrologie?
Ça, c'est vraiment une question très intéressante.
Est-ce
qu'il y a un lien, justement, entre les difficultés lors de l'accouchement et tous ces problèmes urinaires qui ont suivi?
Oui, tout à fait. Merci pour votre témoignage, hein, Thérèse. Donc, en fait, ce qui vous est arrivé, ça s'appelle une insuffisance rénale aiguë. Vos reins se sont mis en grève à cause de la rupture utérine. Ça veut dire que, malheureusement, comme vous, il y a de nombreuses femmes qui ont subi cela. C'est en fait quand on saigne beaucoup ou quand brutalement la tension baisse parce qu'en fait l'utérus se rompt, eh bien, les reins ne sont plus aussi bien perfusés et donc ils se mettent en grève. Mmh. Et ça dure en moyenne 3 semaines. Il faut être dialysé et vous avez eu la chance d'être dialysé. Et au bout de 3 semaines, mmh. eh bien, vous êtes guérie parce que vous êtes une femme jeune et on sait que quand c'est aigu, mmh. pour peu que derrière, dorénavant, vous ayez une alimentation équilibrée, mmh. que vous bougiez bien beaucoup tous les jours, que vous ne soyez pas en surpoids, que vous ne mangez pas trop salé, eh bien, on sait que vos reins, ils seront normaux. Il y a une capacité à récupérer complètement.
La dialyse permet de prendre le relais pour
le temps
que ce soit pas trop abîmé.
Le temps que en fait, ils sont sidérés.
Sur pause.
Ils sont sur pause, mais ils peuvent repartir. Mmh. Et la capacité de régénération de l'intérieur du rein, qu'on appelle la médullaire, qui souffre, c'est comme s'il était complètement en grève, il se réveille au bout de 3 semaines. Mmh. Et d'ailleurs, les premières femmes en France qui ont été dialysées, c'était dans les complications soit d'accouchement, soit d'avortement dans les années 70.
Ça veut dire que pour Thérèse, si jamais elle avait la possibilité ou la volonté d'avoir un autre bébé, il faudrait prendre des précautions particulières?
Les précautions particulières, c'est une césarienne obligatoire, ça c'est vraiment programmé, c'est obligatoire, et une surveillance, on va dire, classique de la grossesse.
Oui. Mais en tout cas, pour l'accouchement,
oui,
plus pour l'accouchement par voie basse.
Ah non, prendre ce risque, c'est trop important, c'est trop précieux, de les reins.
On comprend bien. On remercie infiniment Thérèse pour son témoignage.
Merci beaucoup. Oui.
On part à Goma, dans l'est de la RDC. Un dernier auditeur en direct avec nous, c'est Jonathan. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur Isabelle. Je suis Jonathan, j'ai 24 ans.
Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui vous préoccupe, pourquoi vous avez souhaité participer?
Bien, merci. En fait j'avais remarqué quelques changements de l'aspect des urines après un rapport sexuel. Mmh. C'était les urines qui ont changé de couleur, qui avaient l'aspect jaunâtre, foncé, donc elles n'étaient pas claires. Mmh. Mais aussi, chaque fois, pendant une journée, je peux uriner 7 fois, mais à petite quantité. En fait, j'ai un problème de polycurie. Donc, j'urine même 5-6 secondes, c'est fini. Après 2 minutes, après 2 heures, 3 heures, donc je peux uriner par jour même 7 fois, mais en de très petites quantités.
Mmh. Et ça vous inquiète?
Oui, ça m'inquiète vraiment.
Vous posez quoi comme question précisément?
Précisément, j'aimerais savoir quelles sont les précautions que je puisse prendre pour éviter ces aspects, parce que ce ne sont pas les aspects qui sont normaux.
Jonathan, vous en avez parlé à un médecin ou jamais? Vous êtes jeune, vous avez la vingtaine.
Oui, je n'ai jamais parlé à un médecin, mais je pense aller consulter un médecin.
Docteur Tostivin, qu'est-ce que vous pouvez dire à Jonathan? Donc, des urines parfois foncées. Ce problème pour uriner, on va dire, il n'arrive pas vraiment à se soulager jusqu'au bout lorsqu'il va aux toilettes. Ça revient plusieurs fois dans la journée, forcément. Mmh. À 24 ans, c'est plutôt inquiétant, mais en tout cas, ça fait se poser des questions.
Il faut s'en occuper, il faut aller voir, il faut consulter, là encore, un urologue, parce que là, la prostate, qui est donc la glande juste après la vessie, peut être infecté, peut être gonflé. Il y a un souci sur le trajet de l'urètre, cette fois-ci le tuyau après la vessie. Et on sait que l'urètre, c'est le même. On sait qu'il y a des communications très proches avec la prostate qui peut s'infecter volontiers chez les hommes jeunes. Donc ça fait mal, ça donne des envies comme ça très, très pressantes et très fréquentes. Je peux vous rassurez quand même, Jonathan, par rapport à l'insuffisance rénale, parce que c'était la question sous-jacente, ça ne donne pas de douleur. Si ça en donnait, on n'organiserait pas de journée mondiale du rein. La maladie rénale est très silencieuse.
Alors, quelque chose aussi important pour nos auditeurs, quand on dit la prostate, attention, parce qu'il y a un raccourci chez une partie de nos auditeurs qui, quand on dit prostate, comprennent cancer de la prostate.
Non, pas du tout. Avoir une
affection de la prostate, c'est pas du tout forcément avoir un cancer. On peut avoir un petit problème qui va se régler simplement.
Surtout chez vous qui êtes si jeune, Jonathan. Vraiment, un urologue va trouver la solution en faisant des analyses d'urine, une échographie de la vessie et de la prostate, voir comment elle se vide, pourquoi est-ce que vous vous levez et pourquoi est-ce que vous avez ce besoin si fréquent et pourquoi la couleur des urines n'est pas tout à fait la même lors des rapports.
Vous nous aviez dit tout à l'heure que vous comptiez aller consulter. Ben, on vous encourage à le faire. Hein. Bien évidemment, il faut aller en parler à un médecin.
Oui.
Merci beaucoup, Jonathan. Excellente journée. À Goma, on rejoint tout de suite le Gabon.
RFI à Libreville, 104 FM.
Avec en ligne le docteur Jean Massandé, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour docteur Isabelle.
Bonjour.
Alors vous êtes chirurgien urologue, andrologue, chef de service d'urologie au centre hospitalier universitaire de Libreville au Gabon. Docteur, quels sont les principaux troubles ou affections urinaires pour lesquels vos patients viennent vous voir en consultation?
Disons que les troubles urinaires sont la première cause de consultation chez l'urologue. En termes de chiffres, on peut estimer à 50 à 60% des malades qui viennent pour un problème de troubles urinaires. Alors, ces troubles urinaires sont dominés chez les hommes de plus de 50 ans par les causes prostatiques, qu'il s'agisse de l'infection, qu'il s'agisse de tumeurs bénignes comme l'hypertrophie bénigne de la prostate ou du cancer de la prostate. Et les autres affections, parce qu'il faut savoir que tout ce qui entraîne une bonne évacuation des urines depuis le rein jusqu'à l'urètre peut être à l'origine de troubles mictionnels, de troubles urinaires. Ah, donc c'est un peu, en gros, les troubles que l'on rencontre. Bien sûr que chez la femme, nous avons des troubles urinaires qui sont liés souvent à des cystites ou à d'autres pathologies comme les calculs ou bien l'incontinence urinaire.
Alors, on parlait en début d'émission avec notre invité, hein, le docteur Tostivin, de la grande utilité des analyses d'urine. Est-ce que ce type d'examen est fréquemment prescrit?
Absolument. C'est systématique, même en urologie, qu'il s'agisse de troubles liés à la... Parce qu'il faut savoir que le rein dont a parlé, dont le docteur Isabelle a évoqué tout à l'heure, c'est... La sécrétion est assurée des urines est assurée par les reins, mais toute l'évacuation concerne les larves urinaires depuis les reins jusqu'à l'urètre. Donc toutes les pathologies qui sont liées à ces deux zones peuvent entraver le bon fonctionnement des reins. Et l'examen d'urine, comme le CBU, par exemple, que nous pratiquons tous les jours, peut concourir à diagnostiquer une pathologie rénale.
Alors, les auditeurs de Priorité Santé nous disent souvent que pour les examens complémentaires, trouver l'argent pour aller en consultation, ça passe encore. Mais ces examens, il y a un vrai problème financier, hein, porte-monnaie, frein économique. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez dans votre pratique, docteur Massandé? Vous leur dites, allez faire des examens, et là, ça bloque un petit peu parce que vraiment, c'est dur à financer.
Bon, on va dire que nous sommes quand même dans une situation exceptionnelle. Hein. Nous avons la chance d'avoir... une assurance universelle, une couverture maladie, donc par conséquent...
Vous au Gabon, par rapport aux autres pays du continent?
Pas trop de problèmes.
Meilleure couverture.
La CNAMGS qui prend une moitié de la prise en charge de ces examens.
Alors, quand on en arrive aux cas les plus graves, hein, en termes de santé du rein, évidemment, au chapitre de l'accès aux soins, en cas d'insuffisance rénale sévère, du recours à la dialyse, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de l'accès à cette méthode d'épuration du sang pour le Gabon? C'est quelque chose qui est bien fait?
Oui, c'est fréquent. En fait, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de centres d'hémodialyse à Libreville qui marchent très bien, avec une bonne fréquence par rapport à la prise en charge des malades. Et en même temps, nous travaillons, bien sûr, en collaboration entre les néphrologues et les urologues, parce qu'il faut savoir que, comme l'a dit le docteur Isabelle tout à l'heure, s'il s'agit, par exemple, d'un problème d'obstacle sur les voies urinaires, c'est l'urologue qui s'en charge. Et parfois, cette insuffisance rénale qui est due par un obstacle, qui est due à un obstacle, peut être jugulée après la levée de l'obstacle.
Avec donc un travail très, très complémentaire. Un dernier message, et on va dire aussi que là, c'est absolument essentiel. La sensibilisation, la prévention, Journée mondiale du rein. Quel message faire passer aux auditeurs pour vraiment faire attention à sa santé et éviter d'aller justement vers des maladies particulièrement sévères?
Bon, moi, je crois que d'abord, c'est la vulgarisation. La vulgarisation passe par... la sensibilisation au cours des journées comme celle qu'on organise maintenant. Et puis, nous avons l'habitude d'organiser au niveau universitaire ce qu'on appelle des enseignements post-universitaires pour essayer d'inculquer à nos étudiants en médecine, parce que ça commence d'abord au niveau de la faculté de médecine. Ça commence d'abord au niveau des médecins. Ils doivent sensibiliser leurs patients et puis sur le plan national, faire des campagnes de sensibilisation. Mais ce n'est pas toujours facile parce que, effectivement, les patients ne viennent pas consulter de manière spontanée. Parfois, c'est parce qu'il y a une symptomatologie évidente. Mm-hmm. Parfois pas. Donc, c'est assez difficile, mais c'est un combat qu'il faut mener. Il ne faut pas se décourager pour le mener. Et nous sommes là pour essayer de contribuer à cela.
On vous remercie beaucoup, docteur Jean Massandé. Excellente journée à vous et à toute votre équipe au Centre hospitalier universitaire de Libreville. Docteur Isabelle Tostivin, c'est essentiel, cette dimension de prévention, de sensibilisation. Surtout que vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de maladies du rein sont traîtresses. Elles ne font pas de bruit, elles avancent à bas bruit. Elles sont insidieuses, sans symptômes. Alors, pour les prévenir, on fait quoi? On fait des examens réguliers, on fait quoi?
On se fait dépister, surtout aujourd'hui. On prend la tension, parce que dès que le rein souffre, il fabrique de la rénine, une hormone très très puissamment hypertensive. On fait la bandelette urinaire, ça ne coûte pas très cher. On recherche la présence de sang dans les urines, la présence d'albumine dans les urines. Et puis les conseils, c'est des conseils d'hygiène diététique. Il faut bouger tous les jours. On est fait pour aller chasser le mammouth plus que pour rester devant nos vidéos Zoom toute la journée. Il faut lutter contre la sédentarité, ne pas devenir un zombie. Et donc il faut, parce que cet organe est très vascularisé, dès que vous bougez, il adore ça. Il faut bien s'hydrater, on l'a vu, et puis il faut manger équilibré, ça veut dire très bien réparti sur la journée, matin, midi, soir idéalement, ne pas tout manger que le soir, parce que après le travail, c'est beaucoup de travail pour la nuit, et donc ça veut dire équilibré, notamment en protéines, une petite portion, à peu près les trois quarts de la pomme, ça suffit largement par jour. Voilà, beaucoup de légumes, la moitié de l'assiette légumes, deux fruits seulement, parce que le diabète c'est la première cause de dialyse au monde, et donc les fruits, c'est très sucré. Quand on dit 5 fruits et légumes, j'aurais préféré qu'on dise 5 légumes et 2 fruits.
Question de mathématiques. Un dernier point, docteur Tostivin, qui va peut-être à l'inverse d'un certain nombre d'idées reçues. Notre contexte actuel, on a commencé par ça, la crise sanitaire. Vous avez, à titre personnel, constaté plutôt des éléments positif pour votre pratique professionnelle, situation hors norme dans ce secteur de la santé pour transmettre l'information. Pourquoi justement cette analyse?
Ah, ça c'était génial, merci Caroline de me donner cette occasion de le dire, parce qu'en fait nous depuis mars dernier, on a été équipés et on travaille en webinaires nationaux. En fait, nos collègues de l'Est nous ont dit comment faire pour prendre en charge nos patients concrètement. On a eu un séminaire toutes les semaines de toute la première vague. Et on a tellement aimé ça, la mise en commun de nos savoirs et de nos expériences, c'est les connaissances et les expériences, que c'était vraiment formidable. Il y avait plus d'un millier de connexions, c'était vraiment génial. Et on a continué ça. Donc en fait, on partage nos expériences. Et dorénavant, il y a des RCP nationales. Réunion, concertation pluridisciplinaire. Une question, j'arrive pas à prendre en charge mon patient, comment je fais? Eh bien, je demande à tous mes collègues, uro, néphro, diète, généticien, rhumato. Et ça, c'est fantastique. On en a un par semaine, pour vous donner une idée. Donc oui, la crise, ça apporte aussi son lot d'amélioration, même si c'est particulièrement douloureux à vivre en ce moment.
L'émulation, le partage dans l'épreuve. Merci beaucoup, docteur Isabelle Tostivin. C'est une nouvelle fois un plaisir d'échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassen, Louise Kaledek, Raphaël Plusva, Didier Bleu, Laurent Hérault, Romain Leborgne. Demain, émission spéciale Questions de femmes. On va parler de l'endométriose. Pour ne pas rester avec ses douleurs, avec ses doutes, un spécialiste à votre écoute. À demain. D'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Wave Tower. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
7 milliards de voisins.